Et puis en le troisième lieu, c'est le Saint-Sépulcre. Mais vous savez, le Saint-Sépulcre, pour nous, en fin de compte, ben, le pèlerinage n'est pas obligatoire, comme il est dans l'islam, comme il est si important dans le judaïsme, la Jérusalem d'ici-bas a gardé toute sa de centralité géographique. Pour nous, les sacrements, comme ça, c'est l'échelle, ce qui s'est passé une fois pour toutes, est rendu présent de nouveau, de présence réelle à tous les points de l'espace et du temps, jusqu'à ce qu'il revienne. Et le lieu n'ajoute rien à la réalité de la présence sacramentelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et devant le Saint-Sépulcre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on monte pour en sortir. Comme Jésus a fait au matin de Pâques. C'est un tombeau vide. Et on pourrait marquer à l'entrée, il n'est pas là. C'est pas moi qui le dis, relisez l'évangile de Saint-Luc. Hein. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas là. Mais c'est quand même impressionnant, quoi. Que cette tête de pont dans l'éternité qui s'est produite là, lorsqu'au matin de Pâques, le Christ est sorti vainqueur de la mort. C'est toute l'absurdité de l'existence qui disparaît. C'est quand même merveilleux. On ne se lasse pas d'aller là-bas, malgré... C'est moins beau que la mosquée de Mar. Donc c'est vrai que c'est le même volume. Hein. Quand les Arabes sont venus, ils ont mobilisé les architectes byzantins, ils ont commandé un monument plus beau que le Saint-Sépulcre, mais du même style. Et il paraît que le tambour qui supporte la coupole là, a exactement le même diamètre. Hein. À quelques centimètres près. Et, tandis que la mosquée d'Omar, c'est un spectacle extraordinaire. Et puis, ils ont eu le bon goût de laisser la roche, hein, où était le Saint des Saints, d'après la tradition, comme ça, visible, nu.
Donc, la mosquée d'Omar se trouve à l'endroit traditionnel du temps.
C'est ça, il y en a qui discutent, non, toujours qui discuteront, puis c'est invérifiable, en tout cas, si c'est pas là, c'est pas loin. Saint des Saints du temple de Salomon et d'Hérode.
Alors les chrétiens s'étaient peu intéressés d'ailleurs à ce lieu puisque c'est un...
Ah, oui. Alors on considérait à l'époque byzantine la ruine du temple comme une espèce de preuve que c'était fini avec le judaïsme et tout ça. Et les byzantins l'avaient laissé abandonner. Et il semble que les arabes quand ils sont venus ont laissé les juifs venir pratiquer leur culte d'abord sur le temple. Et puis ensuite lorsque l'islam a commencé à se morceler il y a eu des rivalités entre ceux de la Mecque et de Médine, et puis celui qui était ici à Jérusalem a essayé de faire converger le pèlerinage vers Jérusalem, et c'est devenu alors un lieu important aussi dans l'islam. Enfin, je ne vais pas me lancer dans toutes ces questions-là. On était à une époque alors où enfin, tout immédiatement être opposé à un plan politique, et c'est très difficile de faire un effort de lucidité. Bon, je trouve qu'il y a un admirable effort de lucidité qui a été fait actuellement dans la citadelle. Vous avez une exposition remarquable, hein, et ou alors la place du christianisme, la place de l'islam est faite dans une... C'est fait par des juifs évidemment qui voient les choses et ne peuvent pas faire autrement de leur point de vue. Mais je trouve qu'ils ont en fin de compte une largeur d'esprit qu'on regrette de ne pas trouver dans d'autres habitants de Jérusalem. C'est assez remarquable.
De Jérusalem.
Et je crois que c'est comme ça qu'on peut travailler de manière constructive. Mais c'est très difficile avec le monde de faire un effort de lucidité. Tout de suite, on est embarqué dans la politique. Essayons de faire cet effort de lucidité. Alors si maintenant on passe au Saint-Sépulcre, et je voudrais vous montrer que c'est une tradition vraiment sérieuse et que c'est bouleversant d'aller là, à l'endroit où le Christ, est, au matin de Pâques, est sorti vainqueur de la mort. On parle du Saint-Sépulcre, on pourrait peut-être dire l'anastasis, là, comme les Grecs, au fond, ce qu'on venait, tout l'axe d'ailleurs du monument est vert, est orienté. Les églises sont orientées vers l'est habituellement, et là c'est orienté vers l'ouest, hein, parce que c'est là que se trouve le tombeau de Jésus, là, on a évidé la colline pour l'isoler. Et construire une coupole. Alors tout le bâtiment est orienté vers cette victoire sur la mort. Alors si on prend la méthode que j'ai essayé de vous donner, là, de premièrement donner topographique, vous en trouvez quatre dans l'évangile. C'est en dehors du mur, et même ça a une valeur théologique, la victime étant entraînée en dehors du mur, lisez l'épître aux Hébreux, là. Sortons en portant son opprobre. Deuxièmement, c'est près du mur, dans une région, troisième, de tombeaux et de jardins. Rappelez Marie-Madeleine qui pense que c'est le jardinier, là, au matin de la résurrection. Et puis, l'endroit du supplice et l'endroit de l'ensevelissement étaient proches l'un de l'autre. Vous vous rappelez, c'était la veille du Shabbat. On commençait à allumer les lumières du Shabbat. Épée Fosken dans Saint-Luc. Et alors, elles se reposent, les saintes femmes, selon la loi, le jour du Shabbat, et seulement le dimanche, le premier jours de la semaine qu'elles vont avec leurs aromates qu'elles ont achetés avant le Shabbat. C'est intéressant de remarquer tous ces détails. Parce que l'épée Foskens, ça fait certainement allusion à la coutume juive d'allumer les lumières avant la tombée du jour, lorsque commence le Shabbat, le vendredi soir. À part ces quatre données topographiques, vous n'en avez pas d'autres. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a une tradition unique et continue jusqu'à l'époque moderne. Alors, un général anglais en a trouvé un autre. Et celui qui garde actuellement a beaucoup d'humour, il dit comme ça, on a deux occasions de méditer sur le mystère de la résurrection à Jérusalem. Enfin, je n'en parlerai pas. Mais évidemment, alors, pour vérifier cela, il faut faire de l'archéologie. Moi, je n'emmène jamais les gens au Saint-Sépulcre avant de les avoir emmenés voir cette fameuse maquette là, qui est cette reconstitution de la Jérusalem hérodienne. Parce qu'il faut savoir que tout ce que Jésus a connu, toute la Jérusalem que Jésus a connue, a été complètement anéantie par Titus en 70 après Jésus-Christ, sauf la tour de face à elle là, qui est près de la porte de Jaffa, quand on entre par la porte de Jaffa. Alors c'est pour ça qu'il faut descendre, il faut faire des fouilles. Et puis les murs aussi, il faut connaître l'histoire des murs. Alors quand on connaît l'histoire des murs, rien ne permet de mettre en question sérieusement, aucun archéologue sérieux ne met en question sérieusement que Jérusalem était en dehors du mur. Les murs, on en connaît le tracé d'après Flavius Joseph, qui nous décrit l'arrivée des Romains en 70. Alors ils ont enfoncé trois murs avant d'arriver au cœur de la cité. Le premier mur, je n'en parle pas parce qu'il a été construit en 44 après Jésus-Christ. Une brève parenthèse, ou alors un Hérode Agrippas, comme retrouver un peu l'empire de son grand-père, le Hérode le Grand. Et ce mur semble dater de cette époque-là. On va me lancer dans l'archéologie, je ne suis pas spécialiste du tout dans ce domaine-là. Mais ce qui limitait la ville au temps de Jésus au nord, c'était un mur qui nous est décrit par Flavius Joseph comme partant de la porte des jardins et faisant un arc de cercle, Cluclumenon, pour aboutir à la forteresse de l'Antonia. Alors si vous partez du premier mur, si vous faites un arc de cercle pour aboutir à l'Antonia, l'endroit qui est ici peut être à l'intérieur. Mais c'est ici que l'archéologie vient au secours de la... D'abord, au point de vue simplement, ce qu'on appelle l'art de faire des murs, comment est-ce qu'on appelle ça? La polyorcétique, c'est ça. On ne fait jamais de mur rond. On fait toujours des murs en zigzag, là, comme ça empêche les mineurs de faire leur travail en temps de siège. Bon, mais il y a un autre argument. Hein. Quand on visite les environs du Saint-Sépulcre, il y a un hospice là, russe, et alors on voit d'énormes pierres de taille hérodienne qui sont posées sur le roc qui a été taillé de telle sorte que, manifestement, c'était taillé pour les recevoir. Et il semble bien que ce soit le mur qui limitait la ville au temps d'Hérode. Et alors on voit une porte, et enfin si Jésus n'est pas sorti exactement par cette porte, il est sorti pas loin, il a traversé les fossés de la ville, et puis il a été crucifié dans les fossés de la ville, c'était des fossés et des carrières, et dans toute carrière, alors il y a des rochers qu'on renonce à tailler, parce qu'ils sont fendus, parce qu'ils ont une forme bizarre, il y en avait un qui avait la forme d'un crâne, c'est pour ça qu'on l'appelait Goulgolette, en hébreu Golgotha, et c'est là que les Romains avaient pris l'habitude de faire des exécutions capitales.